Bonsoir à tous, bienvenue dans ce grand débat d'entre-deux-tours. Dimanche 8 novembre, vous élisez votre gouvernement pour les 5 prochaines années. 5 sièges, mais 6 prétendants. Ils sont tous avec nous ce soir. Dans l'ordre d'arrivée au premier tour, nous recevons le PDC Charles Juillard, ministre sortant, la socialiste Nathalie Barthoulot, le PLR Jacques Guerber, l'autre PDC Martial Courtais, le ministre socialiste sortant Michel Tens et le PCSI David Herret. Bonsoir à tous. Bonsoir. Et pour animer ce débat avec moi, Raphaël Chalvera, bonsoir.
Bonsoir, oui, ce débat pour le deuxième tour où nous allons partir sur trois thèmes. Le premier intitulé « Quelle composition pour le gouvernement ?». Dans un deuxième temps, nous parlerons d'immigration, bien que le thème soit plutôt fédéral, il concerne également le canton du Jura. Et puis un troisième thème consacré à l'économie, à l'emploi et au tourisme. On entre dans le vif du sujet avec la composition pour le gouvernement, en analysant peut-être les résultats du Parlement. La droite a percé, 4 sièges en plus pour l'UDC, 1 de plus pour le PLR. Le gouvernement doit-il suivre cette tendance ? Michel Tens, ne serait-il pas plus facile pour le Parti Socialiste d'entrer peut-être davantage dans un rôle d'opposition ? Pourquoi tenez-vous mordicus à ce que le PS conserve 2 sièges ?
Je crois d'abord que c'est le peuple qui va choisir son futur gouvernement. C'est le 8 au soir que l'on aura véritablement cette composition. Il sera nécessaire là de respecter le choix du peuple. Maintenant, pourquoi les socialistes souhaitent maintenir 2 sièges au gouvernement jurassien ? Tout d'abord, en effet, pour avoir une présence socialiste importante et aussi pour pouvoir faire perdurer le travail qui a été fait dans la législature qui s'achève avec 2 socialistes au gouvernement et en compagnie des autres membres du gouvernement. Nous avons pu faire avancer pas mal de dossiers de manière positive. Et puis, parallèlement à ça, je crois qu'il est nécessaire et utile de maintenir une certaine continuité. J'ai la chance d'avoir pu être au sein de ce gouvernement depuis 5 ans et ainsi d'avoir pu développer un réseau, notamment à l'intérieur de notre canton, mais aussi à l'extérieur de notre canton. Et ce genre de choses-là est extrêmement précieux pour l'avenir du canton. En effet, d'avoir des ministres sortants qui peuvent faire bénéficier le canton de leur réseau d'influence au-delà du canton. Alors, pour ça, rien que pour ça aussi, ça vaut la peine.
On reviendra tout à l'heure sur le nombre de sortants dans ce prochain gouvernement. Avant ça, David Herret, vous décrivez le PCSI comme un parti de centre-gauche. Dans les faits, vous dites que vous ne visez le siège de personne en particulier, mais quand même, on l'a bien vu ici ou là, vous balancez de temps en temps des pics à Michel Tens. C'est clairement son siège que vous visez. Un parti de centre-gauche, il ne souhaite pas plutôt gouverner avec 2 PS qu'avec des élus de droite?
Alors, je pense qu'au niveau des sièges qui seront attribués, ce seront les électeurs qui feront leur choix.
Oui, mais votre avis à vous.
Et évidemment, donc, mon avis, c'est que le PCSI doit être présent au gouvernement, étant donné que nous pourrons amener aussi un meilleur équilibre entre les forces qui sont présentes au Parlement et les forces présentes au gouvernement. Et d'ailleurs, je pense qu'avant l'étiquette partisane, il faut surtout des personnalités qui soient des personnalités qui rassemblent, des personnalités qui soient communicatives, qui cherchent des solutions de consensus avec l'ensemble du Parlement, et pas avoir une politique de confrontation entre une force ou l'autre.
Marcel Courtais, la question centrale de ce deuxième tour, on l'entend partout, hein, franchement, c'est de savoir si le PS gardera 2 sièges ou non. Du coup, est-ce que vous vous sentez serein au PDC?
Eh bien, chaque élection, on n'est jamais serein de toute façon dans une élection. Et je crois que le premier tour a donné un certain nombre de réponses. Et maintenant, je crois surtout au niveau de la force du PDC, au Parlement, il est légitime qu'il puisse y avoir cette continuité de 2 PDC au Parlement. Ceci étant dit, il y a un mot qu'on n'a pas utilisé, on parle de le peuple fera son choix, etc. Moi, je crois qu'il faut avoir confiance. Il faut avoir confiance dans ce choix populaire. Et je pense que les gens sauront faire leur gouvernement en se disant que il faut mettre des gens qui sont capables de travailler ensemble. Mais c'est en tout cas pas à moi de suggérer, ou comme on pouvait le voir, et ceci dit, ça m'a bien fait rire, mais de voir la caricature aujourd'hui dans l'Archebdo, ce n'est pas à moi de dire qui je veux au gouvernement. Vraiment, confiance dans la population.
On va quand même vous demander votre avis sur le PCSI. Doit-il avoir sa place au gouvernement ?
Mais je n'ai pas à me prononcer là-dessus. Je n'ai pas.
Vous avez un avis quand même.
Mais il y a une forme de duel entre le PS et le PCSI. Très bien, j'ai envie de dire qu'ils se débrouillent entre eux. C'est peu me chaud.
On passe à Jacques Guerber. Vous souhaitez que le gouvernement suive la ligne du Parlement, vous, donc qui se situe plutôt à droite. L'UDC soutient à demi-mot David Herret, hein, pour un équilibre géographique à l'exécutif. Pas de soutien officiel au PLR, donc le PLR doit compter sur le PDC pour s'assurer de conserver son fauteuil.
Vous l'avez dit, les. Important aux yeux du PLR que pour le bon fonctionnement des institutions, mais également en bonne logique, que l'exécutif et le législatif aient la même majorité. Et je dirais c'est dans ce cadre-là que nous nous inscrivons dans ce deuxième tour. Et il est important, et je crois que également l'électorat UDC saura en bonne logique également reconduire cette majorité dimanche en 8.
Alors revenons peut-être au résultat du Parlement. L'UDC a remporté une victoire. Il y aura des représentants dans chaque commission. Un député agrarien présidera probablement le législatif ces prochaines années. Ce parti aura désormais son mot à dire. Comment comptez-vous travailler avec lui, Nathalie Bartolo?
Alors je compte travailler avec lui parce que l'UDC est une force politique en tant que telle et je pense que la population a manifesté, a exprimé un choix. Il faut respecter ce choix et puis nous travaillerons avec eux.
Mais comment? Est-ce que ça va changer peut-être la manière de faire de la politique, tout simplement? Parce qu'on aurait pu dire jusqu'à présent, l'UDC causait toujours, on est majoritaire, là c'est un acteur qui va compter. Est-ce que ça va changer un petit peu la perception des choses?
Alors j'imagine que ça va quelque peu polariser un petit peu les points sur lesquels la politique devra s'intéresser, parce qu'on le sait, l'UDC a des positions très claires sur des sujets qui sont qui font partie des valeurs des Jurassiennes et des Jurassiens. Il y aura certainement à défendre avec beaucoup plus de conviction, je dirais, toutes les valeurs que sont les nôtres, que sont celles de la gauche, c'est-à-dire tous les domaines qui nous intéressent, que ce soit l'éducation, la formation, des choses comme ça. Je pense que ça va quand même changer un petit peu le débat au niveau du Parlement.
L'UDC a marqué les esprits lors du premier tour. Charles Juillard, le PS et le PDC perdent des plumes, le PCSI est stable, le PLR ne gagne qu'un siège. Les discours de vos partis, à vous six réunis ici, ne sont plus porteurs, plus assez neufs?
Bon, je crois que le Jura a succombé, comme le reste de la Suisse, à cette montée de la droite, un peu en réaction sur certains thèmes particuliers. Je ne suis pas certain que si nous avions eu des élections cantonales à une autre date que les élections fédérales, nous ayons le même résultat au niveau du Parlement. L'UDC a quand même bénéficié au cours des années d'une montée lente et puis qui tout à coup, au système proportionnel, fait qu'il suffit de 1 ou 2% supplémentaires pour basculer et gagner quelques sièges, ce qui est effectivement le cas. Mais s'il y avait eu d'autres thèmes plus cantonaux lors des débats qui ont eu lieu avant les élections, eh bien je ne suis pas certain que l'UDC aurait fait ce résultat, mais il faut en prendre acte et puis c'est la volonté populaire.
On a fait un premier tour de table, vous êtes tous exprimés. À partir de maintenant, n'hésitez pas les uns les autres à vous exprimer sur les différents sujets. On va rester quand même sur cette montée de l'UDC. Vos différents profils Smart Vote ont un point commun à tous les six. Vous avez une large ouverture vers l'étranger, vraiment large. Est-ce que ça ne vous déconnecte pas d'une large partie de l'électorat UDC? Jacques Herbert, je vois faire oui de la tête.
Non, pas d'être déconnecté. Permettez-moi tout d'abord de corriger peut-être de vos propos. Le PLR gagne un siège alors que nous avons une forte poussée de l'UDC qui en gagne quatre. J'aimerais juste mentionner que nous avons la plus grande progression au niveau jurassien du PLR dans le cadre du Conseil national, plus grande progression de Suisse. Donc pour nous, c'est un résultat très positif que le résultat au niveau du Parlement. Oui, nous avons une divergence par rapport, et c'est ce qui certainement fait le succès du PLR dans ces élections, nous avons une divergence de taille avec l'UDC quant au maintien de cette ouverture dans le cadre du soutien inconditionnel au bilatéral.
Merci à Courtais.
Mais moi, je crois, par rapport à l'UDC, il y a quelque chose d'important quand même à entendre. Il faut aussi, et je pense que la politique et les politiciens doivent aussi faire cet effort, il faut aussi se remettre en question. Quand on a un tel score, c'est aussi parce qu'il y a des mécontents. Je sais bien que l'UDC, ce n'est pas uniquement un parti de mécontents, je sais bien qu'ils ont une base, mais ils ont aussi un afflux de gens qui, un temps, ont voté à gauche, peut-être, ou à l'extrême gauche, et qui, maintenant, pour montrer leur mécontentement, votent aussi pour l'UDC. Ça, c'est une partie. Et dans ce sens-là, je crois qu'il y a des remises en question à faire. Je ne veux pas entrer dans un jeu simpliste de montrer du doigt, mais je pense que sur les thématiques typiquement liées à l'UDC, et notamment celles des gens du voyage, moi je suis désolé à ce propos-là, ça fait le lit de l'UDC. Parce que maintenant, pour moi, c'est ce qui est proposé là à Courant de l'Ain, ça c'est une erreur. Et ça ne fait qu'empirer cette situation.
Sans rentrer dans le sujet des gens du voyage, parce qu'on va y revenir un tout petit peu plus tard, Michel Ten, Valls. Marcel Courtais parle de remise en question. C'est l'heure de la remise en question pour le prochain gouvernement.
Mais on parle beaucoup dans ces débats de l'UDC. Je trouve qu'il y a une part.
C'est un fait marquant de ce premier tour.
Il y a une part de place faite à l'UDC dans les débats au gouvernement, alors qu'ils n'y sont pas, qui me semble un petit peu trop important.
On ne peut pas ignorer le premier.
On ne peut pas ignorer, en effet, le résultat du Parlement. On verra, en effet, comment celui-ci va travailler, comment l'UDC va travailler au sein de ce Parlement, quelles sont les propositions qu'il aura à faire. Nous espérons évidemment qu'il ait des propositions pour faire avancer le canton du Jura. Certes, il a bénéficié d'une augmentation importante, mais pour l'instant, au gouvernement, nous avons d'abord à construire le Jura de demain. Nous devrons en effet travailler avec le Parlement, avec cette augmentation de cette part du DC. Mais pour l'instant, parlons de l'avenir du Jura en particulier et de son développement à venir.
Pas de remise en question.
Si l'on veut parler des gens du voyage, je souhaiterais alors véritablement ici corriger Monsieur Courtais. Je crois qu'il faut clairement dire que cette problématique est une problématique qui n'est pas nouvelle et qui ne date pas de la législature qui s'achève. C'est une problématique qui date d'une vingtaine d'années. Et il se trouve que durant cette législature, nous avons pris en main les choses et que maintenant il y a une proposition qui est sur la table du Parlement, une proposition qui est sur la table du Parlement, qui est défendue d'ailleurs par un ministre PDC et par le gouvernement.
Oui, parce que
complet.
Vous lui refilez ce dossier là.
On y reviendra.
C'est le deuxième thème de notre débat, messieurs. On y reviendra vraiment largement.
L'immigration et les gens du voyage sont deux choses fondamentalement différentes.
C'est différent. Monsieur Chalgoir. Ça sera dans ce contexte-là. On va vraiment y revenir. Toujours. Voilà, construire le Jura de demain, vous disiez Michel Ten. Certains éditorialistes, on l'a lu après la victoire de l'UDC, ont écrit que 30 ans après sa création, le Jura rentre un peu dans le rang, sur un plan politique, à l'image d'autres cantons suisses, comme une certaine normalisation. Le Jura se normalise, David Herret ?
Alors, il se normalise peut-être modérément par rapport au respect de la Constitution fédérale et du droit supérieur, mais c'est vrai qu'on doit maintenir dans le Jura cette fibre que nous avions eue à l'époque, au moment de la création du canton. Mais je pense que le canton maintenant est un petit canton qui a une chance, c'est qu'il peut être très réactif, très rapide par rapport à des gros cantons qui ont peut-être plus d'inertie à faire changer les choses. Mais j'aimerais quand même revenir sur ce qu'on a dit sur les gens du voyage.
On va y revenir, mais vraiment, on va y revenir.
Non, mais je vais quand même.
C'est vraiment promis, j'aimerais qu'on reste vraiment sur ce thème introductif, sur la composition du gouvernement. Ça va revenir, vous aurez
largement
le temps
de vous exprimer.
Alors,
si on parle de la composition du gouvernement, ce qu'on n'a pas parlé, c'est de la représentativité des régions. En tant que candidat issu des Franches-Montagnes, j'ai reçu un soutien massif des électeurs franc-montagnards. Et par rapport à ça, donc, je me suis lancé dans le deuxième tour avec enthousiasme. Et j'espère que nous pourrons avoir un franc-montagnard au gouvernement pour un bon équilibre et pour un bon respect des sensibilités régionales.
David Herret, un gouvernement collégial essaye de lutter, quand il traite des dossiers, contre cet esprit de clocher qui est très sensible encore dans le canton du Jura. Là, dans votre campagne, vous le cultivez, les franches, c'est tout.
Pas du tout, parce que justement, quand on a une bonne représentativité des régions qui composent le canton, on évite des fractures entre la population et le gouvernement, comme on peut aussi l'observer au niveau du conseil fédéral, où on tient à avoir chaque fois deux conseillers fédéraux latins pour une bonne cohésion avec la population, pour une bonne entente.
Quoi qu'il arrive, au soir du 8 novembre, au moins trois d'entre vous seront élus à l'exécutif cantonal sans expérience gouvernementale, puisque trois sortants ne sont pas représentés. Alors on va déjà s'adresser à celui qui pourrait être le doyen du prochain gouvernement. Charles Juillard, ce manque d'expérience...
Doyen de fonction, mais pas d'âge.
ce manque d'expérience...
Je revendique d'être le plus âgé.
Ce manque d'expérience au sein du futur gouvernement, c'est quelque chose qui vous inquiète ?
Non, franchement pas, parce que je vous rappellerai quand même qu'il y a 9 ans, eh bien, nous étions trois nouveaux, et je crois pas que c'est si mal marché que ça, hein. On n'a pas tout réussi, mais je crois que globalement, il faut, comme je disais à plusieurs reprises, il faut surtout d'emblée, assez rapidement, abandonner ces slogans de campagne pour se mettre au travail, retrousser les manches et travailler dans l'intérêt du canton. Maintenant, vous dites, il y a des divergences assez marquées avec les résultats du Parlement, notamment par rapport à ce résultat de l'UDC, notamment sous l'angle de l'ouverture. Alors, je crois qu'il faut se souvenir quand même d'une chose, c'est que le Jura comme la Suisse, s'est toujours construit, a toujours créé de la richesse grâce à son ouverture. Ouverture aux autres régions, aux autres mentalités. Et je crois qu'il ne faut pas oublier que l'UDC, certes, a progressé fortement avec 13%, mais ça veut dire qu'il y a quand même encore tous les autres qui n'ont pas voté comme ça et qui, je suis sûr, sont fervents de cette ouverture. Ouverture, on l'a dit, vis-à-vis des régions voisines, vis-à-vis de Moutier prochainement. Et ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier non plus vis-à-vis de la France, vis-à-vis des autres cantons. Parce que seul, on ne peut plus rien faire seul. Même si nous sommes un canton avec toute la souveraineté, nous devons composer avec les autres.
Jacques Gerbert.
Et au-delà du propos, je pense que les six personnes autour de la table seront également capables de réfléchir et d'amener des solutions concrètes aux craintes qui ont fait élire, je dirais, quatre députés UDC supplémentaires. Et je pense que nous devrons également nous atteler à essayer de donner des réponses concrètes à ces craintes.
Moi, je voulais juste compléter, pardonnez-moi, juste sur le propos de M. Herret tout à l'heure. Je comprends bien que c'est le thème qui véhicule et qui fait un peu du matraquage avec ça par rapport aux Franches-Montagnes. C'est de bonne guerre, il a raison de le faire. Mais je veux dire, il faut quand même croire, il faut être convaincu, il faut que les Franches-Montagnards soient convaincus que toutes les personnes ici dans ce débat vont de toute façon, en cas d'élection, œuvrer pour les Franches-Montagnes aussi. Je veux dire, moi, dans le cadre de mon métier, je travaille avec les trois districts. Je suis fréquemment aux Franches-Montagnes, notamment dans les six derniers mois, j'ai été très fréquemment aux Franches-Montagnes. Ça se passe très bien et je pense qu'on a ce souci, et peut-être encore plus ce souci pour un district qui est le plus petit, de le prendre aussi parfois un peu en exemple. Je pense qu'il pourrait nous donner quelques leçons en termes d'économie et de tourisme.
Donc le rôle, peut-être un des rôles du prochain gouvernement, ce serait encore d'essayer de freiner encore cet esprit de clocher trop présent. Pourquoi pas ?
Idéalement, oui. Et d'ailleurs, moi, j'ai toujours été favorable à un cercle unique pour le Parlement jurassien.
Nathalie Bartolo.
Alors effectivement, je comprends aussi l'argument de M. Herret, de dire voilà, il y a une région, les Franches-Montagnes, il est nécessaire de la représenter, mais je pense que quand on aspire à une fonction gouvernementale, on est avant tout jurassien, avant d'être franc-montagnard, ou à Joulot, ou de les Montagnes. On doit travailler au bien de ce canton, on doit travailler au développement de ce canton, et je dirais que l'argument régional, il peut quand même s'exprimer au travers du Parlement, où, on le sait, les Franches auront 10 députés. Et puis je crois aussi que quand on est dans un gouvernement, ce qui compte, c'est notre canton, avec bien évidemment le souci de développer chaque région de manière équitable et puis d'assurer à tous les citoyens de ce canton qui comptent tous de la même manière.
On va s'arrêter maintenant un petit moment sur la composition des départements. Est-ce qu'elle doit changer? Certains, dont vous, Jacques Gerbert, vous avez prôné une refonte de l'État. Est-ce qu'il faut s'attendre à un bouleversement de la situation actuelle début 2016 si vous êtes élu?
Un bouleversement en termes
Les départements vont changer, est-ce que certaines...
Mais je ne peux pas répondre à cette question.
Mais votre opinion.
Aujourd'hui,
moi,
mais
je si vous voulez.
On va y venir, Charles.
Des propositions, effectivement, des propositions ont été faites, du reste, justement, de M. Juillard. Je pense que le rôle du futur gouvernement et des futurs élus, au lendemain du 8, c'est de se mettre autour de la table, de discuter de la répartition en fonction des compétences de chacune et de chacun. Et c'est dans cet esprit-là que l'on devra construire l'organisation du nouveau gouvernement.
Quand vous parlez de propositions qui ont été faites, lesquelles vous parlent à vous? Lesquelles vous semblent crédibles?
Le fait de mettre sur la table le lien entre finance et économie mérite d'être débattu. Ça générera évidemment d'autres questions, d'autres effets. Non, parce que l'organisation peut également se faire de manière différente. Mais ça impliquera également des modifications au niveau du DOGA, du décret d'organisation. Je crois qu'il est trop tôt aujourd'hui de spéculer sur les futures discussions du gouvernement ou des nouveaux élus au lendemain du 8.
Non mais quand même, arrêtons-nous un petit peu cette idée de rapprocher les départements de l'économie et des finances. Michel Tenn, si vous entendez sur notre antenne, vous n'y seriez a priori pas favorable.
Non, mais je pense qu'il est, une fois de plus, comme l'a dit à l'instant Jacques Gerbre, trop tôt pour parler de cela. Par contre, quant à la méthodologie, je pense qu'il est nécessaire que le futur gouvernement qui sortira des urnes le 8 prenne le temps d'aller au-delà d'une simple séance de 2 heures où on se répartit les cartes, en quelque sorte, mais que l'on prenne le temps de poser sur la table les défis qui seront ceux du Jura pour les 5 ou 10 prochaines années. Quels sont de l'avis des membres du gouvernement les divers défis qui attendent le canton du Jura, de poser cela sur la table. À partir de là, qu'en fonction des compétences des uns et des autres, on puisse également les poser sur la table. Et que sur cette base-là, on puisse créer et recréer, pourquoi pas, des départements. Là aussi, je partage l'avis de Jacques Guerbe. Il est nécessaire de... probablement Gerber, excusez-moi, de dépasser ou de laisser de côté, en tout cas temporairement, le décret d'organisation qui explique comment les départements doivent être formés, que l'on on ose en fait dépasser ça et dire, voilà, quels seront les défis, quelles sont les compétences des uns et des autres, et à partir de cela, de créer les futurs départements. Donc voilà, moi je suis ouvert à toute possibilité, a priori, économie et finances ne me paraissent pas forcément compatibles, mais le prochain gouvernement discutera, débattra, et nous construirons ensemble les futurs départements.
Alors pour vous, c'est compatible, cher Juard, expliquez-nous.
Écoutez, je voudrais d'abord préciser, parce que j'en ai déjà parlé à mes collègues, futurs collègues et candidats, disant que je souhaiterais, si je suis réélu, dans ce cas, je devrais présider le futur gouvernement, donc aussi présider la séance constitutive, c'est préparer cette séance constitutive de manière assez précise et assez fouillée. Et le partir d'une page blanche, c'est-à-dire qu'on sait qu'il y aura 5 personnalités, il y aura 5 départements et la chancellerie. Et puis c'est de travailler sur un tableau avec des post-it sur lesquels il y aurait la dénomination des différents services, avec chaque fois les effectifs du personnel qui sont prévus dans ces services, et puis composer au terme d'une réflexion sur les axes principaux qu'on veut mener durant cette législature, et puis peut-être remettre complètement différemment les départements. Alors est-ce que ça sera économie et finances? J'en sais rien. Est-ce que ça sera encore santé sociale, j'en sais rien. Moi, je suis même prêt à dire, le département de la formation, de la culture et des sports, il peut se décortiquer, moyennant le fait qu'on essaie de trouver un certain équilibre si par rapport à la formation de la meilleure équipe.
Charles Duhaire, vous mettez deux immenses morceaux ensemble.
Non, c'est pas vrai.
Peut-être
pas
que les autres départements morceaux seraient moins importants. Quand
mais
même.
Mais ça, c'est pourquoi deux immenses morceaux? Ce sont deux secteurs de l'administration bien définis, avec chaque fois, il faut pas voir la structure actuelle, parce qu'on dit c'est deux immenses morceaux, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, dans le département des finances, de la justice et de la police, il y a, si on fait abstraction des enseignants, il y a plus de 40% des employés de la fonction publique qui sont dans mon département. Mais pourquoi? Mais c'est parce qu'il y a les contributions qui est un grand service, il y a la police qui est un autre grand service. Mais j'entends en termes de compétences, qu'on soit un grand ou un petit service, c'est surtout en lien avec les prestations qui sont servies. Donc il faut plutôt trouver de la logique dans les prestations qu'on veut servir, en lien aussi avec les politiques publiques qu'on veut mener par rapport aux priorités que le gouvernement devra se fixer, parce que nous devrons fixer des priorités. On ne pourra pas simplement additionner les idées émises chaque fois durant cette campagne, parce qu'à ce moment-là, on n'arrivera à rien
du tout. Partir d'une page blanche, on l'a bien compris. David Herret, vous êtes sur la même ligne?
Alors, partiellement, parce que ce que j'aimerais rajouter à ce qu'a dit M. Juillard, c'est qu'au-delà des intérêts, des personnalités, des affinités par rapport à des départements, c'est important de voir vraiment les compétences des uns et des autres. Alors évidemment que quand on est candidat au gouvernement, on doit être prêt à relever les défis de chaque département, mais il y a quand même des départements où il y a certaines compétences qui sont nécessaires de base. Je prends l'exemple du département de l'économie. Il est certainement nécessaire d'être assez à l'aise au niveau des langues, parce qu'il y a des investisseurs dans l'économie qui ne parlent pas forcément le français, par exemple. Et puis je pense qu'à ce niveau-là, il faudra aussi tenir compte des compétences requises, des compétences à disposition pour aussi répartir les départements dans l'intérêt de l'État jurassien.
Alors faisons l'exercice, on a bien compris, vous souhaitez à peu près tous partir d'une page blanche, c'est tout bon, mais faisons un petit tour de table pour savoir, vous, votre opinion personnelle, dans quel département, où est-ce que vous trouvez des compétences particulières? Faisons un petit tour de table, David Herret.
Alors si je commence, c'est clair que ça fait 21 ans que je travaille dans l'industrie horlogère, donc j'ai des affinités naturelles avec l'économie, avec les finances, et puis ensuite, étant sportif, voilà, donc je suis prêt à tout. Mais c'est clair que mes affinités de base sont l'économie et les finances.
Nathalie Barthelo?
Alors étant économiste de formation, puis ayant aussi travaillé dans le privé avant d'entrer au service de l'État, je crois que l'économie et les finances, ce sont des domaines
de département de l'économie.
Et puis en étant chef de service au département de la formation, de la culture et des sports, c'est aussi un département que je connais très bien. L'environnement, je trouve qu'il y a de véritables défis à relever pour les prochaines années. Donc je dois dire que si j'ai la chance d'être élue, je suis relativement ouverte par rapport au département qui pourrait m'intéresser.
Charles Juillard, un nouveau défi?
C'est toujours un défi, c'est tous les jours un défi, hein. Vous savez, aux finances en particulier, donc je crois que de ce côté-là, on ne s'ennuie pas. Après 9 ans à tête des finances, je crois pouvoir dire, connaître assez bien l'ensemble des départements, l'ensemble du fonctionnement de l'administration, et quelles que soient les décisions que le gouvernement prendra lors de sa séance constitutive, moi je suis prêt à relever n'importe quel défi.
Marcel Courtet.
Je crois que moi je n'ai jamais caché le fait d'avoir de l'intérêt pour l'environnement et l'équipement, puisque c'est ma formation, titulaire d'un master en sciences de l'environnement. Les transports qui y sont liés m'intéressent aussi également beaucoup. Maintenant, je suis absolument ouvert sur cette question. Je travaille dans le département de la formation, donc j'ai l'outrecuidance de penser que je pourrais aussi y apporter quelque chose. Et maintenant, alors, un autre élément peut-être par rapport à l'économie dont mes préopinants ont évoqué les études qu'ils ont faites dans ce domaine. Je me permets d'évoquer aussi le fait que j'ai été à la tête d'une entreprise jusqu'à 17 employés. Ça donne quand même des éléments concrets pour savoir ce que les PME vivent au jour le jour. Et par rapport à ça, je pense que c'est une sensibilité qui sera importante aussi de mettre dans ce nouveau gouvernement.
Michel Tans.
Visiblement, de dire qu'on a travaillé dans l'économie est un point positif. Donc, je vais dire que j'ai travaillé pendant 25 ans dans l'agriculture avec et pour l'agriculture jurassienne. Donc, quelque part, l'économie m'intéresse aussi. Au-delà de cela, l'expérience acquise dans ce travail précédent me permet aussi d'être intéressé à la formation, tout comme le contact avec l'agriculture vous mène vers l'environnement.
Donc, la santé que vous avez aujourd'hui, c'est une patate chaude à profiler.
Parallèlement à cela, puisqu'on parle agriculture, il est aussi question d'alimentation, de santé, enfin bref, véritablement l'ensemble des divers départements et des défis en fait qui attendent de gouvernement m'intéressent, et je crois que c'est nécessaire que chacun et chacune au sein de ce gouvernement soit ouvert pour n'importe lequel de ces défis.
Donc y compris de rester à la santé si vous êtes réélu.
Y compris rester à la santé parce qu'il y a une expérience qui a été acquise en 5 ans qu'il s'agit de mettre en valeur, et ça pourrait être dommage que de laisser de côté les compétences acquises pendant 5 ans et de ne pas les faire fructifier.
On termine le tour de table, Jacques Gerber.
Je suis désolé d'être le dernier et d'être également un économiste de formation, mais... Donc évidemment, l'économie en termes d'intérêt me passionnerait, mais au-delà de l'intérêt, il y a des compétences, techniques qui peuvent également influencer le fait d'être plus en mesure de prendre tel ou tel département. Je pense notamment que le fait de venir de l'administration est également un facteur qui devra être mis sur la table lors de ces discussions de répartition. Ensuite, les capacités de communication, les langues, etc. Je pense que c'est vraiment un tout, et c'est par rapport à cela qu'on se décidera.
J'aimerais peut-être juste dire encore un mot sur la santé. C'est vrai que vous l'avez justement relevé, de dire qu'apparemment les gens ne vont pas se précipiter pour prendre la santé le cas échéant. On l'avait déjà vu dans les précédentes législatures. Je trouve ça bien dramatique. Et alors, je m'engage ce soir, le cas échéant, en cas d'élection, si c'est un département qui me revenait, à mettre beaucoup de force, d'énergie et de conviction dans un tel défi, parce que ça, c'est un défi très important. Je trouve ça dramatique. C'est le quatrième débat qu'on fait dans différents médias. On ne parle pas du tout de la santé, on ne parle pas du tout de social, de formation, etc. Donc j'aimerais bien... il n'y a que les finances qui sont intéressantes, apparemment. C'est à pas négliger, mais c'est quelque chose d'important. Donc,
c'est pas tout à fait vrai.
Je m'engage.
Vous voyez clairement dans mon programme que j'ai mis également en priorité la formation, avec justement un état des lieux sur la formation.
Vous
n'avez
pas compris. Vous n'avez pas compris ce que je voulais dire. Je voulais juste préciser que les journalistes nous questionnent essentiellement sur les finances et sur l'économie, et qu'on n'a pas le temps de développer d'autres thèmes qui sont importants aussi, et dont la santé qui préoccupe. Donc, ce n'était pas contre votre programme, M. Gerber. Non, mais c'est vrai que c'est important, ça concerne tous les gens dans la rue, on les entend parler de ça, ils se font du souci par rapport aux questions des urgences de l'hôpital, comment ça se passe, aux questions d'hospitalisation, qu'est-ce qu'il va avoir demain, est-ce qu'il faut qu'ils aillent à Fribourg ou à Neuchâtel? Eh bien non, il faudra qu'ils aillent plutôt verbal grâce à la qualité de soins qui y sont offerts. Ça, c'est des choses importantes, et le cas échéant, je peux vous promettre que je me battrai pour ça.